Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup à vous d'être resté alors que le temps réglementaire du colloque est déjà terminé. Donc j'interviens dans le temps additionnel, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Et tout d'abord, j'aimerais vous rassurer que je ne veux pas traiter toutes les questions des mesures provisoires dans tous les pays arabes. Il n'y aurait pas assez de temps, on aurait besoin d'un colloque, mais j'essaierai de traiter les principales questions, notamment les questions qui ont été abordées dans des lois récentes et dans certaines décisions récentes. Alors j'imagine que certains d'entre vous ont une bonne connaissance de l'arbitrage dans les pays arabes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et donc je vais commencer par quelques informations générales sur les droits arabes de l'arbitrage. Donc traditionnellement, il y a dans le monde arabe une certaine méfiance à l'égard de l'arbitrage international. La raison est qu'il y a eu des arbitrages dans les années 50, des arbitrages pétroliers où des arbitres occidentaux, en l'occurrence anglais, n'avaient pas appliqué le droit arabe, musulman en l'occurrence, avaient appliqué des principes généraux ou le droit anglais. Cette méfiance s'est traduite dans les lois arabes de l'arbitrage qui, généralement, ne reconnaissaient pas le pouvoir de l'arbitre d'ordonner des mesures provisoires. Cette méfiance s'est aussi traduite dans certaines décisions étatiques, notamment récentes. Vous avez peut-être entendu parler d'une décision qatari qui n'a pas reconnu une sentence CCI parce qu'elle n'avait pas été rendue au nom de l'émir du Qatar, comme le code de procédure civile qatari l'exige pour toute décision de justice, et l'arbitrage est une décision de justice. Il y a aussi une décision des tribunaux émiratis qui avait annulé une sentence internationale parce que les témoins n'avaient pas prêté serment. Il y a une méfiance traditionnelle, mais ces dernières années, nous avons observé un mouvement de réforme des lois de l'arbitrage. Donc l'Arabie saoudite a adopté une nouvelle loi en 2012 qui a remplacé une loi qui était un peu restrictive. La loi de 2012 est fondée et inspirée de la loi Knutsi. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont adopté de nouvelles lois de l'arbitrage pour la première fois de leur histoire, qui sont très inspirés de la loi Knutsi. Le Bahreïn est un cas exceptionnel, je pense, du point de vue du droit comparé en général, puisque le Bahreïn a adopté intégralement la loi type Knutsi dans sa version de 2006. Lorsque j'ai lu cela sur Clouer, j'ai eu un doute. Je suis allé vérifier dans le journal officiel du Bahreïn, et effectivement, c'était toute la loi entière, y compris l'article 17 sur les mesures provisoires, et même j'ai vu sous l'article 17, il était marqué tel qu'adopté en 2006. Donc c'était vraiment une adoption et traduction intégrale de la loi Tikunsi. Alors bien sûr, il y a un article qui a été dans la loi qui adopte la loi Knutsi. Il y avait un article qui disait que le tribunal compétent était le tribunal, parce que bien sûr, ce n'était pas marqué dans la loi Tikunsi. La Mauritanie a adopté un code, mais qui n'a pas encore été promulgué. Je ne pense pas que ça soit le pays qui vous intéresse le plus. Alors aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas exposer le droit arabe de l'arbitrage ou le droit arabe commercial sans parler d'un phénomène récent qui est l'émergence de financial free zones, qu'on appelle aussi îlots de common law dans un océan de civil law qu'est le monde arabe. Ces îlots de common law, ces financial free zones, sont le DIFC, le Dubai International Financial Center, c'est le QFC, le Qatar Financial Center, et le ADGM, Abu Dhabi Global Markets. Ces juridictions peuvent servir de siège en arbitrage. Ils sont dotés de leurs propres tribunaux qui rendent leurs décisions en langue anglaise, qui sont composés par des juges anglais, de Singapour, des juges formés à la common law et parfois assistés par des juges locaux, émiratis en l'occurrence. Dans ces îlots de common law, on n'applique pas le droit fédéral des Émirats arabes unis sur le droit du commerce ou le droit ou la loi civile. Ils ont leur propre loi. Ils ont aussi leur propre loi d'arbitrage. Donc il y a une loi du QFC de 2005 d'arbitrage qui est distincte de la loi du Qatar de l'arbitrage. Et ces lois-là sont inspirées de la loi type Knutsi. Parfois, nous retrouvons des institutions d'arbitrage comme le DIFC-LCIA dans le règlement d'arbitrage de 2016 et copié du règlement LCIA de 2014. Et donc, on y trouve une disposition sur l'arbitre d'urgence. Et l'idée de créer ces free zones était aussi d'éviter de court-circuiter les tribunaux locaux qui n'étaient pas très favorables à l'arbitrage. Alors, comme je vous ai promis, je ne pourrai pas traiter toutes les questions. Je vais prendre trois principales questions. La première est la question de la compétence de l'arbitre pour ordonner des mesures provisoires. Cette compétence est admise aujourd'hui dans la majorité des pays arabes. Ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Dans d'autres pays, cette compétence est possible si les parties le veulent. Donc c'est le cas, par exemple, du droit égyptien. La loi égyptienne a fêté hier ses 25 ans. Donc c'est une loi qui date un peu, mais elle était déjà inspirée par la loi Tipknutsi. Et bien sûr, il est communément admis que le simple fait de signer, d'adhérer à un règlement d'arbitrage suffit, qui reconnaît le pouvoir de l'arbitre d'ordonner des mesures provisoires, suffit pour que l'arbitre ait ce pouvoir. Dans d'autres pays arabes minoritaires, la compétence du tribunal arbitral n'est pas reconnue ou discutée, mais j'ai découvert aujourd'hui que ce n'est pas seulement le cas de quelques pays arabes, il y a aussi la Chine et l'Italie, mais voilà. Mais la majorité, quand même, reconnaît expressément ce pouvoir. Alors, que disent les lois récentes, et plus précisément les lois les plus récentes, sur la question des mesures provisoires ? Alors, déjà, on remarque, du point de vue du style législatif, les textes sont assez détaillés. Donc, dans la loi du Qatar et la loi des Émirats arabes unis, on traite la question, par exemple, de la responsabilité pour mesures injustifiées, mesures provisoires injustifiées. On traite aussi des types de mesures provisoires qui peuvent être ordonnées par l'arbitre. Donc là aussi, c'est vraiment inspiré de la loi Tipknutsi dans sa version 2006. Et je note que dans le droit des Émirats arabes unis et du Qatar, on prévoit que l'arbitre a le pouvoir de prendre des mesures pour protéger le processus arbitral, ce qui semble englober les anti-suit injunctions. Et j'ai trouvé aussi dans la loi du Qatar, dans l'article 9, une disposition intéressante qui dit que le tribunal étatique peut prendre des mesures provisoires, y compris celles que mentionne l'article 17, qui mentionne les anti-suit injunctions. Donc, théoriquement, les tribunaux du Qatar pourraient ordonner des anti-suit injunctions, mais bien sûr, il faudra attendre de voir comment les tribunaux interprètent cette disposition. Alors, je n'ai trouvé aucune trace dans les lois récentes sur les mesures ex parte, les mesures super-provisionnelles, comme on dit en Suisse, ou injonction préliminaire, comme on dit dans la loi Tipknutsi, sauf bien sûr dans le Bahreïn, qui a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a intégralement adopté la loi Tipknutsi dans sa version de 2006. L'arbitre d'urgence. Alors, on a dit que dans le règlement d'arbitrage du DIFC-LCIA, il y avait une disposition, d'ailleurs l'article 9, sur l'arbitre d'urgence, Emergency Arbitrator. Mais j'ai trouvé aussi dans la loi du Qatar et la loi du ADGM, le Abu Dhabi Global Markets, une référence implicite, me semble-t-il, à l'arbitre d'urgence. Et d'ailleurs, alors je ne comptais pas en parler, mais puisque ça a été évoqué tout à l'heure, ça c'est l'avantage d'intervenir le dernier. Le professeur Berman a mentionné le principe de subsidiarité, qui apparemment aussi est de droit positif à Singapour. On le retrouve, en l'occurrence, à l'article 9 de la loi du Qatar et à l'article 29 du ADGM, puisque les tribunaux étatiques ne devront intervenir ou ne pourront intervenir que lorsque le tribunal arbitral ou éventuellement l'arbitre d'urgence n'est pas en mesure d'intervenir de manière efficace. Alors, je passe maintenant à mon dernier thème, qui me semble un thème très important. On a déjà évoqué ce thème en matière de DIP, le professeur Bonomi en a parlé. Donc, il y a un intérêt, effectivement, de reconnaître et d'exécuter les mesures provisoires arbitrales pour que le tribunal arbitral, parce qu'il connaît mieux le dossier, le fond du dossier, et pour centraliser la procédure. Dans la loi des Émirats arabes unis et du Qatar, nous avons deux dispositions qui prévoient qu'une partie peut, après avoir obtenu une autorisation du tribunal arbitral, s'adresser au juge étatique pour faire exécuter la mesure provisoire. Les sentences provisoires ou intérimaires, interim hours, peuvent être aussi exécutées. Alors, je noterai que dans la loi du Qatar, il y a une disposition qui me paraît un peu vague, puisqu'elle dit que le juge pourra exécuter la mesure provisoire ou la sentence provisoire unless such order or award contradicts the law or public policy. Public policy, je n'ai aucun problème, mais contradicts the law, ça me paraît un peu large. Alors, les lois fédérales des Émirats arabes unis et la loi du Qatar ne mentionnent pas si l'exécution des mesures provisoires s'applique aussi à celles qui ont été rendues à l'étranger, mais dans les lois du QFC et du ADGM, on précise, à la suite de la loi typique NUTSI, qu'on peut exécuter les mesures provisoires, y compris celles qui ont été rendues à l'étranger, quel que soit le pays où elles ont été rendues. Alors, je passe à ma dernière diapositive avant mes brèves conclusions. Alors, je parle toujours du même thème, mais je parlerai d'une décision récente de la Cour d'appel du Caire. Alors, on parlait ce matin, je pense que c'était Maître Giroux qui parlait de la créativité du juge. Nous avons un exemple de créativité, en l'occurrence. Alors, avant de vous parler de la décision, je vais vous parler brièvement des faits. Il y avait un contrat signé entre une société égyptienne et une société coréenne, une exécution contractuelle, une question de paiement. La partie égyptienne s'adresse à la banque pour un appel en garantie. Arbitrage CCI à Paris, la mention est importante. Ordonnance de procédure rendue par le tribunal arbitral qui demande à la partie égyptienne de retrait le retrait de la demande d'appel en garantie et aussi demande l'abandon des poursuites devant le tribunal égyptien, donc une sorte d'anti-suit injunction. L'ordonnance d'exécuture a été accordée, c'était une ordonnance sur requête, donc la décision n'était pas motivée, c'était trois lignes sur, voilà, vous connaissez, je pense, voilà, la procédure de l'ordonnance sur requête. Et donc, il y a eu un recours. Et là, bien sûr, la Cour d'appel, dans une formation tripartite, a dû élaborer un raisonnement pour expliquer si, voilà, pourquoi on peut, dans quelle mesure on peut reconnaître et exécuter une mesure provisoire arbitrale rendue à l'étranger. Donc, tout d'abord, elle s'est référée à l'article 24 de la loi égyptienne sur l'arbitrage, qui permet à une partie de s'adresser, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal arbitral, de s'adresser au tribunal étatique pour faire exécuter la mesure provisoire. Et ensuite, et là c'est le raisonnement le plus original et le plus intéressant, la Cour d'appel a estimé, selon elle, alors elle n'a pas dit que c'était la bonne interprétation, mais c'était plus une prise de position, que selon elle, les décisions provisoires, c'était un terme aussi assez général, font partie des sentences visées par la Convention de New York. Donc il y a aussi le raisonnement qu'elle tranche le litige sur les mesures provisoires de manière définitive. Elle a aussi rappelé l'article 3 de la Convention de New York qui impose aux États que les conditions de reconnaissance des sentences étrangères ne soient pas sensiblement plus rigoureuses que celles pour les sentences nationales. Et ensuite, elle se réfère à la loi type NUTSI. Alors, la loi égyptienne n'a presque pas été changée depuis 1994, donc il est évident qu'elle n'a pas pris en compte la loi type NUTSI de 2006, mais elle s'y réfère en disant que la loi type NUTSI est une sorte de mise en œuvre concrète, une traduction de la Convention de New York. Et donc, la loi type NUTSI, dans son article 17, disait que les mesures provisoires peuvent être reconnues, exécutées, quel que soit le pays où elle a été prononcée. Et après avoir admis le principe de l'exécution des mesures provisoires arbitrales à l'étranger, elle a posé certaines conditions, toujours en s'inspirant de la loi type NUTSI. Donc, le contrôle des cours, des tribunaux étatiques est un contrôle prima facie. On a dit aussi prima facie, je ne sais pas comment. Et on dit aussi prima facie parfois, je ne sais pas comment le. Gian Paolo, tu. Prima facie, ça c'est à l'italienne, prima facie. Ok, d'accord. Parfait. Donc vous avez compris, c'est un contrôle d'apparence. Hein, donc on ne va pas vérifier le fond du raisonnement de l'ordonnance de procédure. Donc il faudra vérifier. L'existence d'une convention d'arbitrage, aussi un contrôle d'apparence du pouvoir de l'arbitre, en l'occurrence c'est un arbitrage CCI, donc ça ne pose pas de problème, la forme exigée par les règles procédurales applicables et la conformité à l'ordre public. Quelle est la portée de cette décision? Alors cette décision d'ailleurs a été remarquée en Égypte, bien sûr, et même le GAR, le Global Arbitration Review l'a mentionné, parce que c'est une décision assez originale pour l'Égypte aussi, je pense, du point de vue du droit comparé, car il n'est pas si répandu, on doit comparer de voir un tribunal étatique exécuter, reconnaître des mesures provisoires prononcées à l'étranger. Donc hier, j'ai pu contacter l'avocat qui a obtenu cette décision. Il m'a dit qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision. Vous savez, la Cour de cassation est la juridiction suprême en matière civile en Égypte. Donc il faudra encore attendre la décision de la Cour de cassation. Mais en tout cas, cette décision pourrait aussi avoir un effet extraterritorial, si je peux me le permettre, puisque les dispositions sur lesquelles s'est fondée la Cour d'appel du Caire se retrouvent aussi dans d'autres pays. La loi type Knoussi existe toujours, donc vu l'influence des tribunaux égyptiens, on pourrait imaginer que certaines autres tribunaux suivent la Cour d'appel du Caire et octroyer l'exéquature aux mesures provisoires à l'étranger. Alors, j'arrive brièvement à quelques remarques conclusives. Alors, beaucoup de choses ont été déjà dites, mais j'aimerais bien mentionner un article récent sur la question qui résumait un peu la question pour dire que the most arbitration friendly, probablement, est de traiter les mesures provisoires et de ne pas traiter les mesures provisoires comme sentence. Donc c'est une approche très pragmatique, mais d'accepter l'exécution des mesures provisoires, quelle que soit la forme dans laquelle elles ont été coulées. Donc c'est une approche pragmatique, et me semble-t-il, c'est aussi un peu l'approche de Singapour. Donc on pourrait reconnaître les mesures provisoires, mais on ne pourrait pas les attaquer, et donc comme ça on garantit leur efficacité. Faut-il, et c'est plus ou moins l'approche de la CNUPSI aussi, qui n'essaye pas de définir les mesures provisoires et les traite de manière très pragmatique. C'est aussi l'approche de la Cour d'appel du Caire. Faut-il en déduire que les pays arabes sont désormais des pays pro-arbitrage, contrairement à ce que j'évoquais il y a 20 minutes sur la méfiance traditionnelle? Je pense qu'il est trop tôt. Il faut encore attendre la décision de la Cour de cassation. Il faut voir comment les tribunaux qataris, émiratis vont interpréter aussi les nouveaux textes qui, en apparence, sont, je pense, plus prometteurs que certaines lois européennes. Mais il faudra encore voir. Il ne suffit pas d'avoir un bon texte, il faut aussi avoir un bon juge derrière. Voilà. Merci beaucoup.